Amis auditeurs, auditrices, bonjour. Aujourd'hui, dans notre émission de l'ACAT, l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture, j'ai la joie d'accueillir Anne Amalric. Anne, bonjour.
Bonjour Anne-Marie.
Et d'accueillir Pierre Azémar. Pierre, bonjour.
Bonjour Anne-Marie, bonjour aux auditeurs.
Avec vous aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs éléments, dont un sondage paru en décembre 2025 par l'IFOP à la demande de l'ACAT France et qui, je crois, est absolument interpellant et gravissime. Alors Pierre, je vous laisse avec Anne nous en parler un petit peu longuement.
Oui, pardon, je disais avant de commencer à Pierre que ça me semblait important de dire que ce sondage avait été fait par l'IFOP, parce que justement, on peut dire que c'est un sondage qui est crédible et intéressant, quoi. C'est pas un sondage fait par l'ACAT. Même si cette année, elle fait de 2026 une année de plaidoyer contre la torture.
Oui, c'est un sondage qui est donc récent, comme vient de le dire Anne, hein, décembre 2025. L'ACAT a voulu faire un point et mesurer l'évolution de l'opinion publique depuis l'avant ou le dernier sondage qui date d'il y a 10 ans.
Anne, il y a 10 ans, oui. Et justement, dans les résultats, il y a toujours cette comparaison avec le sondage d'il y a 10 ans. Et c'est important de voir l'évolution. Notamment, alors là on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet, sur le pourcentage de personnes en France qui sont pour la torture.
Oui, puisque en fait on se rend compte qu'actuellement 38% des Français considèrent que la torture peut être une pratique admissible dans certains cas. C'est une évolution, je crois, de 2 points. En plus, malheureusement, par rapport au dernier sondage qui remontait à
2016.
Voilà, donc en 10 ans, non seulement le caractère admissible ou justifiable de la torture n'a pas baissé, mais au contraire, bon, il a pris de l'ampleur.
Oui, alimenté par des peurs collectives et l'instrumentalisation de la sécurité nationale. Enfin, c'est un peu, je veux dire, les raisons de cette évolution, hein. Alors, on pourrait d'abord dire, d'après les Français, pour eux, la torture, c'est quoi ?
Alors, ils sont d'accord pour reconnaître que c'est une souffrance extrême, une souffrance corporelle extrême, mais qui, dans certains cas, peut avoir une utilité sécuritaire, parce qu'elle permettrait d'obtenir des aveux ou des informations, ou alors une utilité judiciaire en punissant la personne. Et lorsqu'on demande aux Français d'identifier qui pratique la torture, ben les Français placent nettement en tête les organisations criminelles ou terroristes.
Oui, pardon, mais là, il faudrait quand même dire dans le monde, hein, parce qu'on ne se limite pas
oui,
à la France.
Tout à fait.
Je crois que c'est pour ça, hein, quand même. Hein.
Tout à fait. Mais il reste qu'on pense rarement que la torture pourrait émaner d'institutions judiciaires ou policières. Or, en France, on a une vigilance à avoir sur certains comportements des forces de l'ordre qui peuvent peut-être interpeller ou questionner.
Et justement, avec Pierre, avant de venir, on évoquait ce procès en cours de gendarmes, justement, qui font l'objet de poursuites judiciaires pour avoir maltraité un manifestant.
Voilà.
Alors, on ne sait pas encore, je ne sais pas si le jugement a été prononcé, mais enfin, il y a eu, je crois qu'il y avait des peines de prison avec sursis qui avaient été demandées, qui ont été demandées. Voilà. J'insisterai sur le fait que pour la majorité des Français, le recours à la torture viendrait avant tout d'acteurs illégaux et déviants. On ne dit pas ça vient de pouvoirs publics ou des forces publiques.
C'est ça,
hein.
c'est ça.
Cette partie-là ne rentre pas dans.
Le deuxième enseignement du sondage, c'est qu'on sous-estime le nombre de pays qui recourent à la torture dans le monde.
Quand on
interroge les Français, ils sont la plus majoritaire à penser que ça concerne moins de 50 pays. Or, dans une enquête de l'ACAT, on se rend compte que c'est au moins une centaine de pays concernés et Amnesty International
est à 140.
Est à 140 pays.
140,
voilà.
Hein.
Donc, dans au moins 140 pays sur à peu près 200, la torture est pratiquée de manière absolument vérifiable. Donc on sous-estime le recours à la torture dans le monde.
Et dans les pays qui viennent en tête de la pratique de la torture, il y a à 95% des sondés l'Iran et 92% la Russie. Pour la France, il y a 29% de personnes qui estiment que la torture est pratiquée en France.
Voilà, et ce qui est inquiétant, c'est que dans une certaine mesure, la torture paraît donc acceptable, on le redit. On a par exemple posé la question, trouveriez-vous normal qu'un policier administre des décharges électriques ?
36% l'acceptent.
Alors, sur ce point-là, moi, j'ai un chiffre qui indique 59% des Français.
Les décharges électriques.
Oui, pour les, c'est ça. Passer, oui. Pour, estimez-vous normal qu'un gardien de prison place un détenu 10 jours à l'isolement pour le punir, hein, j'insiste sur la finalité de cet isolement, pour le punir, 58% des Français le jugent justifiable.
Oui, oui.
Sur la question, trouveriez-vous normal qu'un immigré qui s'oppose à son expulsion soit bâillonné ? On a 44% des Français à juger ça normal. C'est 18% de points de plus, 18 points de plus, pardon, par rapport à un sondage qui datait de l'année 2000. Et ça, c'est à mettre un petit peu en liaison avec le positionnement des Français vis-à-vis de l'immigration. Sujet dont on reparlera, mais qui est particulièrement préoccupant dans la mesure où il constitue un point clivant et instrumentalisé de, malheureusement, un nombre de plus en plus important de partis politiques. Voilà, donc, en conclusion, je ne sais pas si on peut encore évoquer les autres enseignements.
Non, en conclusion, moi, il y en avait une au sondage, ou du moins les conclusions qui ont été tirées par la CAT sur ce sondage, de dire que, là aussi, en cas de mort sous la torture, le tortionnaire est désigné comme le premier responsable, le tortionnaire, hein, devant les autorités hiérarchiques et politiques qui ont encadré ou ordonné la pratique, bien qu'il n'ait été que l'exécutant. C'est important, ça, quand même. Donc, on rejette la responsabilité sur celui qui a pratiqué directement la torture. Parce que, quand même, bon, c'est l'exécutant et il y a aussi les personnes qui ont toléré et qui ont même demandé ce recours-là. Hein.
Et effectivement, un enseignement, moi aussi, qui m'avait frappé, c'est qu'en France, il y a un sentiment d'être à l'abri de la torture. Un sentiment, d'ailleurs, qui varie selon la position sociale et le positionnement partisan. En gros, moins on est diplômé, ou plus on est proche de partis droite ou extrême droite, plus on juge acceptable le recours à la torture. Si, d'une manière générale, 18% des Français déclarent qu'ils pourraient eux-mêmes recourir à la torture, bon, déjà, 18%, c'est pas rien, dans des circonstances exceptionnelles, cette proportion, elle grimpe à 23% chez les hommes, 30, et d'une manière générale, et 32% chez les sympathisants RN ou Reconquête, par exemple. Voilà, ça en dit long sur le danger lié à ce type de positionnement politique.
Et aux idées qui sont donc sous-jacentes.
Absolument.
Par rapport à tout ça.
Est-ce qu'on peut rajouter quand même un point ? Les groupes qui sont perçus comme étant le plus souvent victimes de la torture pour les Français. 23% des personnes interrogées répondent en premier les minorités ethniques et religieuses. Ça, c'est pour le monde. Hein. 25% les opposants politiques. 27% les femmes. 7% les minorités sexuelles. 11% les délinquants et suspects de droit commun. 4%, c'est pas beaucoup, qui estiment que le 4% seulement estime que les défenseurs des droits humains et 3% les journalistes sont victimes de la torture.
Oui,
quand
tout
même.
À fait.
Donc cet aspect-là de la torture ou des mauvais traitements dont sont victimes, ces corporations, au moins les journalistes et les défenseurs des droits humains. Ça, oui. Ça paraît... Enfin, du moins, en tout cas, c'est passé sous silence ou c'est ignoré. C'est ignoré.
Clair. C'est clair. Et nous, à la 4 France, la lutte contre les traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui sont les définitions de la torture, cette lutte est plus que jamais d'actualité. Il nous faut toujours résister à l'indignité et à la déshumanisation croissante qui justifie le combat que nous menons pour sensibiliser l'opinion. C'est comme la peine de mort, ce sont des combats dont on pense qu'ils sont d'arrière-garde, mais si on n'y prend pas garde, on peut se mettre à accepter l'inacceptable de manière très, très insidieuse. Et c'est vraiment ce qui fait peur. Rester vigilant, conserver notre humanité, c'est ce qui doit nous interpeller tous les jours.
Et même si la CAT s'adresse à des, les personnes qui s'engagent dans les actions de la CAT sont des chrétiens, donc catholiques, protestants, orthodoxes, vous pouvez tout à fait, si vous n'êtes pas chrétien, vous associer à cette démarche de ne pas banaliser la torture. Les conditions déshumanisantes dans lesquelles nombre de personnes, jeunes et moins jeunes, se trouvent en France comme hors de France. Et donc, c'est un combat qu'il faut vraiment mener à tous les niveaux de la population, je dirais. Mmh. Vous souhaitiez parler ensuite de l'Érythrée avant la pause musicale.
Oui, pourquoi ? Parce que c'est un pays dont on parle assez peu, un pays de taille moyenne, hein, qui est dans le nord de la Corne de l'Afrique, coincé entre le Soudan au nord et l'Éthiopie au sud, et qui fournit malheureusement le gros du contingent des réfugiés et des demandeurs d'asile en France. C'est un pays qui est dirigé depuis plus de 30 ans par un président autoritaire, hein, donc inamovible, et qui a supprimé la plupart des libertés publiques. Il n'y a plus de médias indépendants, hein, les journalistes sont emprisonnés ou doivent fuir. C'est le dernier pays au classement de Reporters sans frontières pour la liberté de la presse. Il n'y a pas de parti politique, hein, ils sont interdits. Et on a seulement 4 religions qui sont autorisées. Mmh. Les pratiquants des religions non autorisées sont persécutés, torturés, détenus.
Je crois qu'on parle des témoins de Jéhovah, dans ceux qui sont persécutés.
Oui, oui, tout à fait. En gros, on a l'Église catholique, l'Église protestante luthérienne, l'Église, l'Islam sunnite, et puis une quatrième Église, l'Église orthodoxe, je crois, qui est autorisée. Mais en dehors de ces confessions, les prêtres, les pasteurs sont détenus. La délation est encouragée dans ces pays, et si vous avez une crainte pour votre vie, vous partez à l'étranger, et malheureusement on croit que
on est à l'abri, et on n'est pas à l'abri du tout.
Pas du tout, oui. Parce que les gens qui immigrent sont recherchés pour payer ce qu'on appelle une taxe instaurée par le gouvernement érythréen, une taxe dite diaspora. Si la taxe n'est pas payée, il y a des représailles sur la famille restée au pays. Et puis le gros problème de l'Érythrée, qui fait que ce pays est un pays reconnu comme éligible pour les demandeurs d'asile, c'est l'obligation de faire un service national obligatoire qui peut, à la discrétion de l'armée, durer jusqu'à 30 ans. On a constaté que des gens étaient dans les casernes comme une espèce de servitude généralisée dès la fin de la scolarité des jeunes garçons. Et cette espèce de conscription sans fin génère une fuite massive des Érythréens qu'on retrouve sur notre sol. Là, on a absolument besoin de cette mobilisation. Deuxième raison pour laquelle il faut que nous parlions d'Érythrée, c'est que l'attention de la 4 France a été appelée sur la situation de 7 responsables d'église, 7 pasteurs d'église évangélique ou méthodiste, qui ont été arrêtés en 2005, donc ça fait plus...
Ça fait 20 ans.
20 ans.
Ça fait 20 ans.
20 ans, détenus, ils sont sans détenus, procès. Sans procès. Alors c'est la détention arbitraire, c'est-à-dire que vous vous êtes arrêté du jour au lendemain, sans motif, et détenu sans procès, sans jugement, sans procès, sans bien entendu d'avocat. Et la CAT se mobilise pour ces 7 responsables d'église. Donc on peut se rendre sur le site de la CAT France pour télécharger une lettre qu'on peut signer, envoyer soit par la poste, soit par Internet, pour pouvoir alerter le consulat, alerter l'ambassade érythréenne en France sur la situation de ces 7 responsables d'église, pour qu'on ne les oublie pas et pour qu'on obtienne tout au moins des renseignements sur l'endroit où ils sont détenus, sur le sort qui leur est réservé.
Et ce qui est absolument catastrophique, c'est de penser que les pouvoirs comme l'ONU, etc., internationaux, n'ont aucun pouvoir, finalement, sur le pouvoir politique de l'Érythrée.
Voilà.
Ça, c'est quand même extraordinaire et gravissime.
Oui, parce que ce pays-là refuse toute coopération avec les mécanismes internationaux de protection des droits humains.
Nous arrivons donc à la pause musicale et je crois que vous vouliez introduire la pause, Pierre.
Oui, j'ai écouté une très belle chanson d'Alain Souchon qui parle qui s'appelle Déjà ça, qui parle de la situation des immigrés, en l'occurrence d'un immigré soudanais, le Soudan qui est donc juste à côté de l'Érythrée, et qui lui aussi est un pays qui fait face actuellement à une lutte entre les forces régulières soudanaises de Khartoum et puis une faction rivale emmenée par un autre général, tous deux se disputant le partage du Soudan. Et bien entendu au détriment de la situation des civils qui connaissent une situation épouvantable.
Je sais bien que rue de Belleville, rien n'est fait pour moi. Mais je suis dans une belle ville, c'est déjà ça. Si loin de mes antilopes, je marche tout bas. Marcher dans une ville d'Europe, c'est déjà ça. Oh, 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 je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, oh, rêver. C'est déjà ça, c'est déjà ça. Il y a un sac de plastique vert au bout de mon bras. Dans mon sac vert, il y a de l'air, c'est déjà ça. Quand je danse en marchant dans ces djellabas, ça fait sourire les passants, c'est déjà ça. Soulève, oh, oh, rêver, c'est déjà ça, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Déjà ça. Déjà. Pour vouloir la belle musique, Soudan, mon Soudan. Pour un air démocratique, on te casse les dents. Pour vouloir le monde parler, Soudan, mon Soudan, celui de la parole échangée, on te casse les dents. Oh, 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 je rêve que Soudan, mon pays soudain, se soulève. Oh, oh, rêver, c'est déjà ça, c'est déjà ça. D'une foule, et là le temps et mon fil coule. Oh, 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 et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, oh, rêver, c'est déjà ça, c'est déjà ça. Oh, 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 et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, oh. C'est déjà ça. C'est.
Nous retrouvons nos invités Anne Amalric et Pierre Azémar. Et avec vous, Pierre, on va enchaîner pour donner suite à ce que vous nous avez dit sur l'Érythrée, sur un témoignage d'une personne.
Oui, d'une personne que nous connaissons bien à Montpellier, hein, Joël Nicolas, qui a écrit un billet dans Réforme et qui a un petit mot un peu provocateur, elle dit oui.
Oui, j'allais dire, c'est plus qu'un témoignage, c'est un appel quand même.
Oui, au travail des immigrés, oui. Dit-elle, et c'était important parce que actuellement, dans le contexte que nous vivons, contexte politique et l'instrumentalisation de l'immigration qui est déformée, c'est important d'avoir une parole qui prend le contre-pied et qui nous appelle, nous, chrétiens, à avoir une attitude de bienveillance. Elle dit oui au travail des immigrés, indignons-nous à haute voix, essayons d'inspirer à nos élus, à nos concitoyens, une autre stratégie que la politique qui consiste à stigmatiser les étrangers. Ouvrir le marché du travail aux migrants dès qu'ils posent le pied en France serait une possibilité de pouvoir régulariser, d'avoir une autre attitude. Quelles sont les stratégies qu'on pourrait utiliser ? Moins de charges d'assistanat et plus de recettes d'impôts, moins de personnes à loger, ça serait donc une chance. Moins de proies faciles pour les réseaux de la drogue, là aussi une opportunité, une occasion, une possibilité de résorber la tension sur des emplois recherchés dans plus de 30 métiers. Un apport de compétences dans le domaine de la santé, de l'informatique, de la recherche. Le fameux réarmement démographique que notre président appelle de ses voeux par l'arrivée de travailleurs et de familles. Et pour nous, conclut Joël, la fierté, pour nous Français, la fierté de reconstruire une société généreuse et solidaire en accord avec les valeurs de la République, mais aussi en accord avec notre propre foi, une opportunité qui pourrait être facilité par la liberté de circuler, de travailler, d'entreprendre, une égalité des droits au travail, au logement, à l'éducation. Offrir cette chance aux immigrés, n'est-ce pas une bénédiction pour tous ? Et je tombais sur un article de Libération cette semaine qui relate l'expérience d'un petit village de l'Aveyron qui s'appelle Saint-Chély-d'Aubrac, un village qui se mourait, dont l'école fermait petit à petit les classes, enfin la classe unique, mais le nombre d'élèves qui étaient admis, on passait de 45 élèves à plus 25. Et l'équipe municipale a décidé de prendre le contre-pied et au lieu de stigmatiser les étrangers, et s'est adressé à la préfecture pour leur proposer d'accueillir. Et on parlait des Érythréens, et donc Saint-Chély-d'Aubrac a accueilli en 2018 5 Érythréens, 3 Vietnamiens, une Roumaine, ainsi que leurs 9 enfants. Et ces personnes se sont formidablement bien intégrés dans le village, dont ils font maintenant partie intégrante, travaillant à la mairie, travaillant à l'EHPAD de la commune, et fournissant et procurant beaucoup de joie dans le partage, la chaleur humaine, de telle sorte que leur présence est vraiment plébiscitée. Voilà, je crois que c'est important de dire que, en effet, loin de la subversion qui est prétendument dénoncée, enfin, ou qui existerait dans notre pays, l'immigration peut constituer une chance pour nous et une façon de témoigner d'une société plus humaine, plus chaleureuse, plus fraternelle.
Ce que certains pays ont fait, puisque je crois que l'Espagne vient de régulariser justement plus de 400 travailleurs immigrés qui sont donc tout à fait reconnus dans le paysage professionnel de l'Espagne.
Mais oui, complètement, et l'Italie également. L'Italie de Giorgia Meloni a fait appel à 500 000, voire 600 000 immigrés pour essayer de pallier les problèmes démographiques et économiques du pays.
Vous vouliez, Anne, nous parler de l'appel du mois. Donc, je rappelle que l'appel du mois est une manière que nous soyons adhérents ou non à la CAT, tout à fait gratuit, de pouvoir manifester notre témoignage et notre action contre les violences qui sont faites, ci ou là, dans le monde. Anne, c'est vous qui nous parlez de cela.
Oui, tout à l'heure, Pierre parlait du Soudan, et justement, l'appel du mois concerne un Soudanais, Aboubark Mansour Abdellah, avocat et défenseur des droits humains, qui a été condamné à mort le 5 octobre 2025, après plusieurs autres condamnations, mais maintenant il est condamné à mort. Et cette sentence inhumaine s'inscrit dans un contexte où la société civile est écrasée par la guerre dévastatrice entre les forces armées soudanaises, il évoquait ça tout à l'heure Pierre, le FAS, et les forces de soutien rapide, le FSR. Alors, l'appel du mois, donc, c'est une lettre qu'on peut écrire, qu'on doit écrire à l'ambassadeur qui est en mission permanente de la République du Soudan au prix de l'Office des Nations Unies à Genève et autres organisations internationales à Genève. Donc, vous trouverez un modèle ou du moins la carte que vous pouvez envoyer, le texte complet, sur le site de la CAT, je le rappelle, c'est A4 France en minuscule et en attaché.fr. Donc, il suffit de vous mettre sur ce site-là. Vous retrouverez cet appel du mois et il suffit de l'envoyer. Vous pouvez l'envoyer par mail ou donc par correspondance, par une carte.
Et ce qui est important de dire, vous nous en aviez déjà parlé, Anne et Pierre, c'est que régulièrement, vous vous rendez compte au niveau de la CAT que ces appels peuvent porter leurs fruits.
Bien sûr. Alors peut-être on n'a pas le temps aujourd'hui, mais une fois on consacrera l'émission à dire justement quels ont été les résultats positifs, parce qu'il y en a quand même, de nos démarches en direction des autorités qui pratiquent la torture ou qui condamnent à mort encore. Hein.
Voilà, une dernière information que vous souhaitiez partager. Je vous passe la parole, Pierre.
Oui, la CAT vient d'adresser une lettre à Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, ce nom doit vous dire quelque chose, c'est le PDG de Meta. Et Meta, c'est l'entreprise multinationale américaine, géant de la tech, qui est propriétaire de Google, de Facebook et de WhatsApp, pour ne citer que ces trois réseaux sociaux. Pourquoi on a écrit à Mark Zuckerberg? C'est que Facebook a accepté de se plier aux exigences du gouvernement vietnamien et de supprimer des pages Facebook et des comptes Facebook d'opposants vietnamiens. Pourtant, en janvier 2025, Zuckerberg avait déclaré, donc le propriétaire de Facebook, « Il est temps de revenir à nos fondamentaux concernant la liberté d'expression. Nous allons travailler avec le président Trump pour faire pression sur le gouvernement du monde entier. » Alors, on aurait pu supposer que ça aurait été une bonne nouvelle, qu'on aurait pu arriver à la liberté d'expression. Donc, c'est tout le contraire qui s'est produit, puisque, en définitive, on s'est aligné sur les politiques répressives des gouvernements qui sont des gouvernements antidémocratiques. Le Vietnam est un très beau pays avec des gens magnifiques, mais malheureusement dirigé par un gouvernement extrêmement autoritaire qui purement et simplement demandé à Facebook de carrément supprimer ces pages. Donc Meta a dit, voilà, nous avons bloqué l'accès au Vietnam à 17 pages Facebook du Parti pro-démocratie Vietnam, qui est un parti pro-démocratie. Le 17 décembre, ils ont de nouveau géobloqué 3 pages. Donc, ce sont des pages qui sont des pages dans lesquelles des voix dissidentes légitimes, pacifiques s'expriment. Et ces donc restrictions, ces blocages, ces censures ont été mis en œuvre à la demande du ministère de la Sécurité publique vietnamien. Donc, la CAT a écrit avec d'autres signataires. On espère simplement que ça va générer une prise de conscience.
Voilà, merci beaucoup à chacun de vous deux. Merci à Olivier qui était à la régie. Et je vous dis à dans un mois. Au revoir.